Jules Michelet, La sorcière. Chapitre 5. Possession. L'âge terrible, c'est l'âge d'or. J'appelle ainsi la dure époque où l'or eut son avènement. C'est l'an 1300, sous le règne du beau roi qu'on put croire d'or ou de fer, qui ne dit jamais un mot, grand roi qui parut avoir un démon muet, mais de bras puissants, assez fort pour brûler le temple, assez long pour atteindre Rome, et d'un gant de fer porter le premier soufflet au pape. L'or devient alors le grand pape, le grand dieu, non sans raison. Le mouvement a commencé sur l'Europe par la croisade. On estime de richesse que celle qui a des ailes et se prête au mouvement, celle des échanges rapides. Le roi, pour frapper ses coups à distance, ne veut que de l'or. L'armée de l'or, l'armée du fisc, se répand sur tout le pays. Le seigneur, qui a rapporté son rêve de l'Orient, en désire toujours les merveilles, armes damasquinées, tapis, épices, chevaux précieux. Pour tout cela, il faut de l'or. Quand le cerf apporte son blé, il le repousse du pied. Ce n'est pas tout, je veux de l'or. Le monde est changé ce jour-là. Jusqu'alors, au milieu des maux, il y avait pour le tribut une sécurité innocente. Bon an, mal an, la redevance suivait le cours de la nature et la mesure de la moisson. Si le seigneur disait « c'est peu », on répondait « Monseigneur, Dieu n'a pas donné davantage ». Mais l'or, hélas, où le trouver? Nous n'avons pas une armée pour en prendre aux villes de Flandre. Où creuserons-nous la terre pour lui ravir son trésor? Oh, si nous étions guidés par l'esprit des trésors cachés! Pendant que tous désespèrent, la femme au lutin est déjà assise sur ses sacs de blé dans la petite ville voisine. Elle est seule. Les autres, au village, sont encore à délibérer. Elle vend au prix qu'elle veut, mais même quand les autres arrivent, tout va à elle. Je ne sais quel magique attrait y mène. Personne ne marchande avec elle. Son mari, avant le terme, apporte sa redevance en bonne monnaie sonnante à l'orme féodal. Tous disent « chose surprenante, mais elle a le diable au corps ». Il rit, et elle ne rit pas. Elle est triste, a peur. Elle a beau prier le soir. Des fourmillements étranges agitent, troublent son sommeil. Elle voit de bizarres figures. L'esprit si petit, si doux, semble devenu impérieux. Il ose, elle est inquiète, indignée, veut se lever. Elle reste, mais elle gémit, se sent dépendre, se dit « je ne m'appartiens donc plus ». Voilà enfin, dit le seigneur, un paysan raisonnable. Il paye d'avance. « Tu me plais, sais-tu compter ?» Quelque peu. Eh bien, c'est toi qui compteras avec tous ces gens. Chaque samedi, assis sous l'orme, tu recevras leur argent. Le dimanche, avant la messe, tu le monteras au château. Grand changement de situation. Le cœur bat fort à la femme quand le samedi, elle voit son pauvre laboureur, ce cerf, siéger comme un petit seigneur sous l'ombrage seigneurial. L'homme est un peu étourdi, mais enfin, il s'habitue. Il prend quelque gravité. Il n'y a pas à plaisanter. Le seigneur veut qu'on le respecte. Quand il est monté au château et que les jaloux ont fait mine de rire, de lui faire quelques tours, « Vous voyez bien ce créneau, dit le seigneur. Vous ne voyez pas la corde, qui cependant est prête. Le premier qui le touchera, je le mets là, haut et court. » Ce mot circule, on le redit, et il étend autour d'eux comme une atmosphère de terreur. Chacun leur ôte le chapeau bien bas, très bas. Mais on s'éloigne, on s'écarte quand ils passent. Pour les éviter, on s'en va par le chemin de traverse, sans voir et le dos courbé. Ce changement les rend fiers d'abord, bientôt les attriste. Ils vont seuls dans la commune. Elle, si fine, elle voit bien le dédain haineux du château, la haine peureuse d'en bas. Elle se sent entre deux périls, dans un terrible isolement. Nul protecteur que le Seigneur, ou plutôt l'argent qu'on lui donne, mais pour le trouver cet argent, pour stimuler la lenteur du paysan, vaincre l'inertie qui l'oppose, pour arracher quelque chose même à qui n'a rien, qu'il faut d'insistance, de menace, de rigueur. Le bonhomme n'était pas fait à ce métier. Elle l'y dresse, elle le pousse, elle lui dit « Soyez rude, au besoin, cruel, frappez, sinon vous manquerez les termes, et alors nous serons perdus. » Ceci, c'est le tourment du jour, peu de choses en comparaison des supplices de la nuit. Elle a comme perdu le sommeil, elle se lève, va, vient. Elle rôde autour de la maison. Tout est calme, et cependant, qu'elle est changée, cette maison. Comme elle a perdu sa douceur de sécurité, d'innocence. Que rumine ce chat au foyer, qui fait semblant de dormir, et m'entr'ouvre ses yeux verts. La chèvre, à la longue barbe, discrète et sinistre personne, en sait bien plus qu'elle n'en dit. Et cette vache que la lune fait entrevoir dans l'étable, pourquoi m'a-t-elle adressé de côté un tel regard? Tout cela n'est pas naturel. Elle frissonne et va se mettre à côté de son mari. Homme heureux, quel sommeil profond! Moi, c'est fini, je ne dors plus, je ne dormirai plus jamais. Elle s'affaisse pourtant à la longue, mais alors combien elle souffre! L'hôte importun est près d'elle, exigeant, impérieux. Il la traite sans ménagement. Si elle l'éloigne un moment par le signe de la croix ou quelque prière, il revient sous une autre forme. « Arrière démon, causes-tu? Je suis une âme chrétienne. Non, cela ne t'est pas permis. » Il prend alors pour se venger, sans forme hideuse. Il file gluant en couleuvre sur son sein, danse en crapaud sur son ventre, ou, chauve-souris, d'un bec aigu cueille à sa bouche effrayée d'horribles baisers. Que veut-il? La pousser à bout, faire que, vaincue, épuisée, elle cède et lâche un oui. Mais elle résiste encore, elle s'obstine à dire non. Elle s'obstine à souffrir les luttes cruelles de chaque nuit, l'interminable martyr de ce désolant combat. Jusqu'à quel point un esprit peut-il en même temps se faire corps? Ses assauts, ses tentatives ont-elles une réalité? Pêcherait-elle charnellement en subissant l'invasion de celui qui rôde autour d'elle? Serait-ce un adultère réel? Détour subtil par lequel il alanguit quelquefois, énerve sa résistance. « Si je ne suis rien qu'un souffle, une fumée, un air léger, comme beaucoup de docteurs le disent, que craignez-vous, âme timide, et qu'importe à votre mari ?» C'est le supplice des âmes, pendant tout le Moyen-Âge, que nombre de questions que nous trouverions vaines, de pure scolastique, agitent, effraient, tourmentent, se traduisent en visions, parfois en débats diaboliques, en dialogues cruels qui se font à l'intérieur. Le démon, quelque furieux qu'il soit dans les démoniaques, reste un esprit toutefois tant que dure l'Empire romain et encore au temps de Saint-Martin, au Ve siècle. À l'invasion des barbares, il se barbarise et prend corps. Il l'est si bien qu'à coups de pierre il s'amuse à casser la cloche du couvent de Saint-Benoît. De plus en plus, pour effrayer les violents envahisseurs de biens ecclésiastiques, on incarne fortement le diable. On inculque cette pensée qu'il tourmentera les pécheurs, non d'âme à âme seulement, mais corporellement, dans leur chair, qu'ils souffriront des supplices matériels, non des flammes idéales, mais bien en réalité ce que les charbons ardents, le grill ou la broche rouge peuvent donner d'exquises douleurs. L'idée des diables tortureurs, infligeant aux âmes des morts des tortures matérielles, fut pour l'Église une mine d'or. Les vivants, navrés de douleur, de pitié, se demandaient si l'on pouvait, d'un monde à l'autre, les racheter, ces pauvres âmes, leur appliquer l'expiation par amende des compositions que l'on pratique sur la terre. Ce pont entre les deux mondes fut Cluny, qui, dès sa naissance, vers 900, devint tout à coup l'un des ordres les plus riches. Tant que Dieu punissait lui-même, appesantissait sa main ou frappait par l'épée de l'ange, selon la noble forme antique, il y avait moins d'horreur. Cette main était sévère, celle d'un juge, d'un père pourtant. L'ange en frappant restait pur et net comme son épée. Il n'en est nullement ainsi quand l'exécution se fait par des démons immondes. Il n'imite point du tout l'ange qui brûla Sodome, mais qui d'abord en sortit. Ils y restent, et leur enfer est une horrible Sodome, où ces esprits plus souillés que les pécheurs qu'on leur livre tirent des tortures qu'ils infligent, d'odieuses jouissances. C'est l'enseignement qu'on trouvait dans les naïves sculptures étalées aux portes des églises. On y apprenait l'horrible leçon des voluptés de la douleur. Sous prétexte de supplice, les diables assouvissent sur leurs victimes les caprices les plus révoltants. Conception immorale et profondément coupable d'une prétendue justice qui favorise le pire, empire sa perversité en lui donnant un jouet et corrompt le démon même. Temps cruel. Sentez-vous combien le ciel fut noir et bas, lourd sur la tête de l'homme? Les pauvres petits enfants, dès leur premier âge, imbus de ces idées horribles et tremblant dans le berceau. La Vierge pure, innocente, qui se sent damnée du plaisir que lui inflige l'esprit. La femme au lit conjugal, martyrisée de ses attaques, résistant, et cependant par moments le sentant en elle. Chose affreuse que connaissent ceux qui ont le ténia. Se sentir une vie double, distinguer les mouvements du monstre, parfois agité, parfois d'une molle douceur, onduleuse, qui trouble encore plus, qui ferait croire qu'on est en mer. Alors on court éperdu, ayant horreur de soi-même, voulant s'échapper, mourir. Même au moment où le démon ne sévissait pas contre elle, la femme qui commençait à être envahie de lui errait, accablée de mélancolie. Car désormais nul remède, il entrait invinciblement, comme une fumée immonde. Il est le prince des airs, des tempêtes, et tout autant des tempêtes intérieures. C'est ce qu'on voit, exprimé grossièrement, énergiquement sous le portail de Strasbourg. En tête du cœur des vierges folles, leur chef, la femme scélérate qui les entraîne à l'abîme, est pleine, gonflée du démon, qui regorge ignoblement et lui sort de dessous ses jupes en noir flot d'épaisse fumée. Ce gonflement est un trait cruel de la possession, c'est un supplice et un orgueil. Elle porte son ventre en avant, l'orgueilleuse de Strasbourg, renverse sa tête en arrière, elle triomphe de sa plénitude, se réjouit d'être un monstre. Elle ne l'est pas encore, la femme que nous suivons, mais elle est gonflée déjà de lui et de sa superbe, de sa fortune nouvelle. La terre ne la porte pas. Grasse et belle, avec tout cela, elle va par la rue, tête haute, impitoyable de dédain. On a peur, on hait, on admire. Notre dame de village dit, d'attitude et de regard, « Je devrais être la dame. » Et que fait-elle là-haut, l'impudique, la paresseuse, au milieu de tous ces hommes pendant l'absence du mari? La rivalité s'établit. Le village qui la déteste en est fier. Si la châtelaine est baronne, celle-ci est reine, plus que reine, on ose dire quoi. Beauté terrible et fantastique, cruelle d'orgueil et de douleur, le démon même est dans ses yeux. Il l'a, et ne l'a pas encore. Elle est elle, et se maintient elle. Elle n'est du démon ni de Dieu. Le démon peut bien l'envahir, y circuler en air subtil, et il n'a encore rien du tout, car il n'a pas la volonté. Elle est possédée, endiablée, et elle n'appartient pas au diable. Parfois, il exerce sur elle d'horribles sévices et n'en tire rien. Il lui met au sein, au ventre, aux entrailles, un charbon de feu. Elle se cabre, elle se tord, et dit cependant encore « Non, bourreau, je resterai moi. » Gare à toi, je te cinglerai d'un si cruel fouet de vipère, je te couperai d'un tel coup qu'après tu iras pleurant et perçant l'air de tes cris. La nuit suivante, il ne vient pas. Au matin, c'est le dimanche, l'homme est monté au château. Il en descend tout défait. Le seigneur a dit « Un ruisseau qui va goutte à goutte ne fait pas tourner le moulin. Tu m'apportes sou à sou ce qui ne me sert à rien. Je vais partir dans 15 jours. Le roi marche vers la Flandre et je n'ai pas seulement un destrier de bataille. Le mien boite depuis le tournoi. Arrange-toi, il me faut 100 livres. » « Mais, monseigneur, où les trouver ? Mets tout le village à sac, si tu veux. Je vais te donner assez d'hommes. Dis à tes rustres qu'ils sont perdus si l'argent n'arrive pas. Et toi le premier, tu es mort. J'en ai assez de toi. Tu as le cœur d'une femme. Tu es un lâche, un paresseux. Tu périras. Tu la payeras, ta mollesse, ta lâcheté. Tiens, il ne tient presque à rien que tu ne descendes pas et que je ne te garde ici. C'est dimanche, on rirait bien si on te voyait d'en bas gambiller à mes créneaux. » Le malheureux redit cela à sa femme, n'espère rien, se prépare à la mort, recommande son âme à Dieu. Elle, non moins effrayée, ne peut se coucher ni dormir. Que faire? Elle a bien regret d'avoir renvoyé l'esprit. S'il revenait. Le matin, lorsque son mari se lève, elle tombe épuisée sur le lit. À peine elle y est, qu'elle sent un poids lourd sur sa poitrine. Elle allaite, croit étouffée. Ce poids descend, pèse au ventre, et en même temps à ses bras, elle sent comme deux mains d'acier. « Tu m'as désiré, me voici. Eh bien, indocile, enfin, enfin, je l'ai donc, ton âme. Mais, sire, est-elle à moi? Mon pauvre mari, vous l'aimiez, vous l'avez dit, vous promettiez. Ton mari, as-tu oublié? Es-tu sûre de lui avoir toujours gardé ta volonté? Ton âme? Je te la demande par bonté, mais je l'ai déjà. Non, messire, dit-elle encore par un retour de fierté, quoiqu'en nécessité si grande. Non, messire, cette âme est à moi, à mon mari, au sacrement. Ha! Petite, petite sotte, incorrigible. Ce jour même, sous l'aiguillon, tu luttes encore. Je l'ai vue, je la sais, ton âme, à chaque heure, et bien mieux que toi. Jour par jour, j'ai vu tes premières résistances, tes douleurs et tes désespoirs. J'ai vu tes découragements quand tu as dit à demi-voix « Nul n'est tenu à l'impossible. » Puis, j'ai vu tes résignations. Tu as été battu un peu, et tu as crié, pas bien fort. Moi, si j'ai demandé ton âme, c'est que tu l'as déjà perdue. Maintenant, ton mari périt. Que faut-il faire? J'ai pitié de vous. Je t'ai, mais je veux davantage, et il me faut que tu cèdes, et d'aveu et de volonté. Autrement, il périra. » Elle répondit bien bas, en dormant. « Hélas, mon corps et ma misérable chair pour sauver mon pauvre mari, prenez-les. Mais mon cœur, non, personne ne l'a eu jamais et je ne peux pas le donner. » Là, elle attendit résignée et il lui jeta deux mots. « Retiens-les, c'est ton salut. » Au moment, elle frissonna, se sentit avec horreur empalée d'un trait de feu, inondée d'un flot de glace. Elle poussa un grand cri, elle se trouva dans les bras de son mari étonné, qu'elle inonda de larmes. Elle s'arracha violemment, se leva, craignant d'oublier les deux mots si nécessaires. Son mari était effrayé, car elle ne le voyait pas même, mais elle lançait aux murailles le regard aigu de Médée. Jamais elle ne fut plus belle. Dans l'œil noir et le blanc jaune flamboyait une lueur qu'on osait envisager, un jet sulfureux de volcan. Elle marcha droit à la ville. Le premier mot était « vert ». Elle vit pendre à la porte d'un marchand une robe verte, couleur du prince du monde. Robe vieille, qui, mise sur elle, se trouva jeune, éblouie. Elle marcha sans s'informer, droit à la porte d'un juif, et elle y frappa un grand coup. On ouvre avec précaution. Ce pauvre juif, assis par terre, s'était englouti de cendres. « Mon cher, il me faut 100 livres. »« Ah, madame, comment le pourrais-je ? Le prince évêque de la ville, pour me faire dire où est mon or, m'a fait arracher les dents. Voyez ma bouche sanglante. Je sais, mais je viens chercher justement chez toi de quoi détruire ton évêque. Quand on soufflette le pape, l'évêque ne tiendra guère. Qui dit cela? C'est Tolède. » Il avait la tête basse. Elle dit et elle souffla. Elle avait une âme entière et le diable par-dessus. Une chaleur extraordinaire remplit la chambre. Lui-même sentit une fontaine de feu. « Madame, dit-il, madame, en la regardant en dessous, pauvre, ruinée comme je suis, j'avais quelques sous en réserve pour nourrir mes pauvres enfants. Tu ne t'en repentiras pas, juif, je vais te faire le grand serment dont on meurt. Ce que tu vas me donner, tu le recevras dans 8 jours et de bonne heure, et le matin, je t'en jure, et ton grand serment est le mien plus grand. Tolède. » 1 an s'était écoulé. Elle s'était arrondie, elle se faisait toute d'or. On était étonné de voir sa fascination. Tous admiraient, tous obéissaient. Par un miracle du diable, le juif, devenu généreux, au moindre signe prêtait. Elle seule soutenait le château, et de son crédit à la ville, et de la terreur du village, de ses rudes extorsions. La victorieuse robe verte allait, venait de plus en plus neuve et belle. Elle-même prenait une colossale beauté de triomphe et d'insolence. Une chose naturelle effrayait. Chacun disait, À son âge, elle grandit. Cependant, voici la nouvelle. Le seigneur revient. La dame, qui dès longtemps n'osait descendre pour ne pas rencontrer la face de celle d'en bas, a monté son cheval blanc. Elle va à la rencontre, entourée de tout son monde, arrête et salue son époux. Avant toute chose, elle dit « Que je vous ai donc attendu. Comment laissez-vous la fidèle épouse si longtemps veuve et languissante ?»« Eh bien, pourtant, je ne peux pas vous donner place ce soir si vous ne m'octroyez un don. »« Demandez, demandez, ô belle, » dit le chevalier en riant. « Mais faites vite, car j'ai hâte de vous embrasser, madame, que je vous trouve embellie. » Elle lui parla à l'oreille, et l'on ne sait ce qu'elle dit. Avant de monter au château, le bon seigneur mit pied à terre devant l'église du village, entra. Sous le porche, en tête des notables, il voit une dame qu'il ne reconnaît pas, mais salue profondément. D'une fierté incomparable, elle portait bien plus haut que toutes les têtes des hommes le sublime hennin de l'époque, le triomphant bonnet du diable. On l'appelait souvent ainsi à cause de la double corne dont il était décoré. La vraie dame rougit, éclipsée, et passa toute petite. Puis, indignée, à demi-voix, « La voilà pourtant votre serve. C'est fini, tout est renversé. Les ânes insultent les chevaux. » À la sortie, le hardi page, le favori, de sa ceinture tire un poignard affilé et, lestement, d'un seul tour, coupe la belle robe verte aux reins. Elle faillit s'évanouir. La foule était interdite. Mais on comprit quand on vit toute la maison du seigneur qui se mit à lui faire la chasse. Rapide et impitoyable, sifflait, tombaient les coups de fouet. Elle fuit, mais pas bien fort. Elle est déjà un peu pesante. À peine elle a fait 20 pas qu'elle heurte. Sa meilleure amie lui a mis sur le chemin une pierre pour la faire choper. On rit. Elle hurle à 4 pattes. Mais les pages, impitoyables, la relèvent à coups de fouet. Les nobles et jolis lévriers aident et mordent aux plus sensibles. Elle arrive enfin éperdue dans ce terrible cortège à la porte de sa maison. Fermée. Là, des pieds et des mains, elle frappe, elle crie « Mon ami, oh vite, vite, ouvrez-moi » Elle était étalée là comme la misérable chouette qu'on cloue aux portes d'une ferme, et les coups en plein lui pleuvaient. Au-dedans, tout était sourd. Le mari était-il, ou bien, riche et effrayé, avait-il peur de la foule, du pillage de la maison? Elle eut là tant de misère, de coups, de soufflets sonores, qu'elle s'affaissa, défaillit. Sur la froide pierre du seuil, elle se trouva assise, à nu, demi-morte, ne couvrant guère sa chair sanglante que des flots de ses longs cheveux. Quelqu'un du château dit « Assez, on n'exige pas qu'elle meure. » On la laisse, elle se cache, mais elle voit en esprit le grand gala du château. Le seigneur, un peu étourdi, disait pourtant « J'y ai regret. » Le chapelain dit doucement « Si cette femme est endiablée, comme on le dit, monseigneur, vous devez à vos bons vassaux, vous devez à tout le pays de la livrer à Sainte-Église. Il est effrayant de voir, depuis ses affaires du temple et du pape, quel progrès fait le démon. Contre lui, rien que le feu. » Sur cela, un dominicain. « Votre révérence a parlé excellemment bien. La diablerie, c'est l'hérésie au premier chef. Comme l'hérétique, l'endiablé doit être brûlé. » Pourtant, plusieurs de nos bons pères ne se fient plus au feu même. Ils veulent sagement qu'avant tout l'âme soit longuement purgée, éprouvée, domptée par les jeûnes, qu'elle ne brûle pas dans son orgueil, qu'elle ne triomphe pas au bûcher. Si, madame, votre piété est si grande, si charitable, que vous-même vous preniez la peine de travailler sur celle-ci, la mettant pour quelques années in pace dans une bonne fosse dont vous seul auriez la clé, vous pourriez, par la constance du châtiment, faire du bien à son âme, honte au diable, et la livrer, humble et douce, aux mains de l'Église. »